Vous êtes sur Fréquence Mistral, merci de nous écouter. Il est l'heure de retrouver l'émission géopolitique et histoire des humains de Serge Tizi, qui est enfin déconfiné après les cours radiophoniques, 24 cours radiophoniques à distance, crise du Covid oblige. Aujourd'hui, le thème, c'est « Les mondes d'après les meilleurs des mondes ?» Point d'interrogation, un tour du monde entre Covid et plage, les crises et les aspects positifs dans le monde, dans l'émission de Serge Tizi, Géopolitique et Histoire des Humains.
A little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back across the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
Bonjour Serge, tu vas nous parler du monde d'aujourd'hui. Peux-tu nous expliquer ce choix?
Bonjour James, bonjour chers auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral. Je pensais effectivement judicieux, important, intéressant, juste avant les départs en vacances, de faire un bilan provisoire du monde depuis l'apparition de cette épidémie de Covid-19. Nous venons de vivre par le confinement une période exceptionnelle de nos vies et de notre histoire. Plus de 2 mois sans pouvoir librement sortir, rencontrer sa famille, ses amis, travailler, s'éduquer, s'instruire, se faire plaisir. Nous avons vécu avec la crainte, sinon la peur de la maladie pour nous, nos proches et plus lointainement les autres humains. Nous avons vécu cela de façon collective, universelle, riche, pauvre, en ville, à la campagne, pays développé, émergent, en voie de développement. Cette épreuve est unique pour notre génération et les générations précédentes, que nous n'avons jamais connu la guerre, des restrictions de liberté, de mouvement, telles que nous venons de les vivre depuis 3 mois. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans ce que le monde vient de vivre et vit encore. Un petit virus vient de mettre à mal toutes nos certitudes, toutes nos habitudes, notre puissance humaine et économique. Nous avons dû à nous adapter très rapidement, faire les courses autrement, vivre 24 heures sur 24 avec les autres membres de la famille, gérer le temps, gérer la promiscuité de logements, des logements trop petits, trop insalubres, gérer parfois l'ingérable et pour certains l'indicible. La crise a révélé les besoins essentiels et ce qui est futile. La crise a révélé la valeur des uns et la lâcheté des autres. Soudain, comme par miracle, les économistes les plus libéraux, ultralibéraux, ont retrouvé un discours keynésien en faveur des services publics forts, d'un État fort, d'une hausse des salaires nécessaire pour les derniers de cordée, eux qui n'avaient fait que privilégier les premiers de cordée. Qu'elles étaient courageuses, ces caissières, ces infirmières, qu'ils sont courageux, ces pompiers, ces agriculteurs. Le Premier ministre conservateur Boris Johnson ne tarissait pas d'éloges sur le service public de santé britannique, lui qui a voté toutes les lois de réduction des dépenses publiques. Il faut dire qu'il venait juste d'être sauvé des suites du Covid-19 par ce même service public de santé. Et je vous propose un petit intermède avec « A Day in the Life » des Beatles. La crise a démontré notre fragilité humaine et notre faculté à nous faire influencer, d'autant plus que nous vivions tous dans des bulles. À notre décharge de simples citoyens, les incertitudes, les incapacités à répondre aux questions, les contre-vérités, les débats médiatiques sans fin et sans raisonnement ont parfois anéanti nos capacités de réflexion. Le précepte « trop d'info tue l'info » s'est cruellement vérifié. D'autant plus que les réseaux sociaux, superbement bien utilisés par des sites complotistes, ont joué leur rôle de multiplicateur de fake news. Nous avons été assujettis collectivement aux nouvelles par le confinement, comme jamais. Un coup d'œil sur BFM, un autre sur un réseau social, allocution du porte-parole du ministre... de la Santé, allocution du Président, nous avons assisté pour la première fois à des débats scientifiques entre pro et anti-chloroquine. Fait qui ne se fait scientifiquement que dans des congrès très sages. Ce débat légitime scientifique, mais médiatisé à outrance, a fait fleurir les thèses complotistes, non seulement sur le web, mais aussi à la télévision. Pro Raoult avec des médecins un peu plus prudents, il a fallu l'interview pathétique de Donald Trump qui proposait d'injecter de l'eau de Javel pour que le flux de fake news se tarisse un peu, comme si un surveillant imaginaire avait sonné la fin de la récréation. La crise a montré les insuffisances françaises et son triste orgueil. J'ai relu pendant le confinement une étrange défaite de Marc Bloch, qui décrit celle de 1940. Il y avait un certain parfum quand même. Le pays de la sécurité sociale pour tous, qui regardait en février de haut nos amis et frères italiens lutter seuls contre le Covid-19, s'est retrouvé démasqué. L'armée a été appelée à la rescousse dans le Grand Est avec des hôpitaux de campagne. Devant la panique par manque de moyens français, l'Allemagne a ouvert ses hôpitaux pour nos malades avec le soutien de son armée de l'air pour transférer les malades dans ses hôpitaux. Nos médecins, nos infirmiers, aides-soignantes, professeurs mobilisés ont fait face comme ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Certains sont morts de ne pas avoir été couverts. L'urgence a fait comprendre la nécessité de lâcher les cordons de la bourse. Le système D de chacun a pallié les insuffisances dans des gestions comptables trop strictes. Nous nous sommes rendus compte de l'indigence structurelle de nos établissements scolaires. Combien de lavabos pour que 1000 élèves se lavent les mains dans un lycée? 4. Combien de WC? 6. Pour reprendre le travail le 11 mai, nous nous sommes rendus compte que des enfants étaient maltraités et que des femmes étaient plus battues que d'habitude. Et alors? Le budget de la justice a-t-il été augmenté? Le nombre de juges, de greffiers, d'assistantes sociales, d'éducateurs spécialisés a-t-il augmenté? Non. Ouvrons-nous une autre école de magistrature? Non. Et que dire des élèves décrocheurs pendant 3 mois malgré les coups de fil des professeurs et des CPE? Nous venons, nous, pays riches, à de découvrir les bienfaits des fonctionnaires de terrain. Et que ceux-ci ne sont pas remplaçables par des algorithmes et l'intelligence artificielle, ni par les Google. Soyons justes. Ceci concerne tous ceux qui aussi, dans le secteur privé, ont été à leur poste, en présentiel ou en télétravail, comme on dit maintenant grâce à Internet. Les Google, Facebook et autres sont les grands vainqueurs, comme les Netflix et autres plateformes de films, de séries. Notez dans ce grand flux l'absence d'opérateurs européens. Notez aussi que les télévisions n'ont pas joué leur rôle d'éducateurs populaires. Ce que je viens de décrire n'est pas strictement franco-français. C'est un fait mondial.
Justement, Serge, certains ont pu dire que c'était la fin de la mondialisation.
C'est une vision que l'on peut entendre, et que l'on entend en fait depuis longtemps. Mais en fait, il y a un mythe du localisme. Tout produire près de chez nous. Réouvrir des usines là où il y en avait. Relocaliser serait une bonne chose. C'est ce qu'on nous dit, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. Mais alors que faire des pollutions générées par les productions? C'est très bien une industrie chimique, mais il faut s'attendre quand même à ce que ça pollue la nappe phréatique, à ce que ça pollue aussi les rivières. Et c'était bien plus commun de mettre ces usines pharmaceutiques hautement polluantes en Chine ou en Inde, très loin de nos rivières. Je reprendrai un exemple. Comment faire une petite robe ou un jogging à 20 euros et le t-shirt à 2 euros sans exploiter quelqu'un à l'autre bout du monde? Comment avoir un iPad à 500 euros? Comment avoir un ordinateur à 270 euros ou un Doliprane à 3 euros sans exploiter quelqu'un à l'autre bout du monde? Un travailleur éthiopien travaille pour 30 euros par mois pour une robe H&M. Une chinoise pour 500 euros par mois, 16 heures par jour, 6 jours sur 7. Et le transport de là-bas jusqu'à chez nous ne coûte rien. La distribution internationale du travail est ainsi faite. Ce qui concernait l'industrie hier concerne désormais les services aujourd'hui. Ceci donnerait raison à la maxime marxiste « Travailler, travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Mais maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. « Ingénieurs de tous les pays, unissez-vous ». Donc, regardez ce qui se passe, par exemple, pour les chercheurs d'Alcatel Nokia en France. Mais nous voyons ceci aussi dans d'autres secteurs. L'agriculture italienne, pendant la crise du Covid, a été bloquée faute de travailleurs indiens et pakistanais pour ramasser les tomates. Idem en France pour les fruits. Sans migration, pas de tomates à 2 euros le kilo. C'est ça, la vérité. Le reste n'est que spéculation pseudo-patriotique, le nationalisme a toujours navigué sur des questions sociales et des mensonges politiques. N'étant plus de réseau des ruraux, les Français ne sont plus aptes à ramasser dans l'urgence des fruits. Ou alors, il faut revoir notre système éducatif, privilégiant l'enseignement général et technologique actuel, vers plutôt un enseignement professionnel, tous azimuts. Mais ceci a un coût qui est bien supérieur.
Donc, à t'entendre, c'est impossible de résoudre le chômage dû à la crise du Covid-19.
Alors, c'est une crise mondiale. Elle n'est pas achevée. Pour ce qui est de la crise sanitaire, elle continue. On a l'impression, depuis le déconfinement, que la crise s'est arrêtée. Le virus semble reprendre de la vigueur et nous assistons à des reconfinements plus localisés en Chine, en Allemagne, en Russie, en Égypte, en Iran, en Argentine, au Chili. Les chiffres chinois, faisons attention, sont toujours à prendre avec des pincettes, étant donné que c'est le Parti communiste chinois qui les fixe. Pour l'Union européenne, sur 500 millions de citoyens, il y avait déjà 50 millions de pauvres avant la crise. À ceci s'ajoutent désormais les 60 millions de personnes en situation précaire due à la crise en chômage technique. À ceci, il faut ajouter que ce phénomène de chômage de masse touche tous les pays du monde. Donc la réponse ne peut être que mondiale. Elle ne peut pas être seulement franco-française, c'est inutile. Si nous résolvons, nous, Français, les choses, les Italiens à côté n'auront toujours pas résolu. Bien. Et il va falloir donc admettre économiquement, une bonne fois pour toutes, qu'on doit vivre avec une dette, qu'il y a des dettes qui sont justes, et celle que nous avons à, voir là, est une dette colossale et remboursable. Alors je dis seulement que nous avons été capables, par le passé, pendant la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale, puis la Guerre froide, de cumuler les dettes pour financer l'effort de défense et les guerres. Nous serions bien en peine, nous humains, désormais, de ne pas financer désormais une reprise économique. 6 milliards pour Renault, c'est ce qui vient d'être donné. Mais l'automobile n'est pas le seul secteur touché. Vous avez Air France, comme British Airways, comme Ryanair, les aéroports de ce secteur aéroportuaire sont lourdement touchés de façon mondiale. Le secteur du tourisme est durablement lui aussi touché. Pensons seulement à notre département qui vit en partie avec le tourisme. Le tourisme normalement commence à partir de mars. Donc vous avez des tas de gens qui ici, dans le 04, sont liés au tourisme, c'est-à-dire que travaillent de façon très saisonnière et touchent ensuite pendant l'hiver, pendant la basse saison, les émoluments qui sont dus à leur travail. Là, ils n'ont pas été embauchés. vous avez des restaurateurs qui n'ont toujours pas réouvert. C'est très difficile à l'heure actuelle de réouvrir et de planifier quelque chose dans le secteur. D'autant plus que vous avez des sites américains comme TripAdvisor c'était la nouvelle avant-hier, disent qu'en France en fait c'est pas possible, il faut surtout pas voyager. Je rappelle seulement que notre pays vit avec 80 millions de touristes qui viennent chaque année dans notre pays. Sans ouverture des frontières, et j'invite Madame Marine Le Pen à bien faire attention à ce qu'elle dit, mais sans ouverture des frontières, vous n'avez plus de touristes. Je veux bien, hein. Mais à ce moment-là, il va falloir expliquer aux hôteliers que la flamme patriotique va les sauver. Ben, la flamme patriotique, elle ne les sauvera pas de la misère s'il n'y a pas de touristes étrangers, anglais, allemands, autrichiens, italiens, américains, chinois, qui viennent sur sur le plateau de Valensole, par exemple, pour faire des photos. Là, le plateau de Valensole est bien triste. La croissance en Afrique a été divisée par 2 en 3 mois. On ne s'imagine pas. C'était des croissances à 5-6%. Là, vous avez une baisse de croissance de multiplier par 2, voire 3 dans certains pays. Le chômage de masse et la précarité s'aggravent partout. Il s'aggrave en Chine, il s'aggrave en Inde, il s'aggrave en Argentine. La question est de savoir si on doit faire comme avant, sans tenir compte des constats locaux. Pour ma part, je pensais qu'on allait faire un grand programme type plan Marshall pour le logement, étant donné qu'on venait de se rendre compte que vous avez un certain nombre de personnes et de familles qui ont vécu dans des locaux trop exigus ou avec des normes énergétiques complètement obsolètes. Les établissements de santé scolaires doivent être rénovés avec de nouvelles normes d'hygiène et de confort. Il va falloir maintenant que les élèves se lavent les mains. Parce que quand on va revenir dans les lycées, dans les collèges et dans les écoles primaires, il va bien falloir que les enfants se lavent les mains régulièrement, puisque c'est l'une des bases pour lutter contre le Covid. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre de l'argent de façon urgente dans des choses qui nous paraîtraient normalement essentielles. L'Europe doit aussi développer son Google, ses Amazon, avec peut-être une vision un peu plus éthique, pour que les gens aient le choix entre Amazon ou autre chose. Nous devons investir dans l'éducation populaire et développer l'éducation fraternelle d'entraide. Notez que les pays qui n'ont pas de régimes sociaux s'en sortent dramatiquement mal, même quand ce sont de grandes puissances avec de grands budgets militaires, comme sont par exemple les USA et la Chine. Et je ne parle pas du Brésil, qui vit une crise sans précédent due à la folie de son président Bolsonaro, qui se met à faire des bisous partout dans la foule et toucher la foule comme si c'était Dieu le Père, en se disant que il doit faire un peu comme Jésus avec Lazare. Sauf qu'à un moment donné, quand les comptes seront faits, on verra un peu s'il est toujours aussi grand sur son piédestal. Cela étant dit, nous allons écouter désormais Gregory Porter avec son superbe titre Revival.
Oui, Serge, Revival, je voulais te faire cette surprise, nous qui sommes compagnons de route depuis quelques mois maintenant. J'essaie de courir et je me lasse, j'essaye de marcher et je m'évanouis. Oh, j'ai envie de planer comme un aigle, mais je regarde en bas et j'ai peur. Mais tu me soulèves plus haut, hors du feu, hors des flammes, sont les traductions du début de la chanson de Gregory Porter que tu viens d'annoncer. Allez, on l'écoute.
Merci, James.
Parts of Los Angeles were in flames. Neighborhoods erupted with anger after 4 white LA police officers were acquitted of assaulting motorists. Riots lasted 5 days. 63 people dead and 200 damaged. We want justice.
I try to run. I grow weary. I try to walk. And I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down. And I'm afraid. I'm afraid. But you live.
Revival song. I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day.
Serge, justement, suite à ce que tu viens de dire, certains disent que nous sommes en guerre froide à nouveau, notamment Chine contre les USA.
Il y a toujours effectivement, James, une proportion à donner des qualificatifs qui marquent l'opinion publique. Les médias parlent de guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Alors, bon. Pour ceux de ma génération et celles qui m'ont précédé, ça veut dire un conflit de blocs. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai effectivement un régime communiste avec un libéralisme économique, qui s'appelle de la Chine populaire. De l'autre, j'ai un régime démocratique avec un libéralisme économique, les États-Unis. L'un est une dictature, l'autre est une démocratie, bon, ok. La Chine voudrait être, c'est ce que dit Xi Jinping, dominant, et voudrait être la puissance du 21e siècle. L'autre, c'est-à-dire les États-Unis, avec leur président Trump, voudrait redevenir une grande puissance et l'hyperpuissance qu'ils ne sont plus. Dans les deux cas, on n'a pas un multilatéralisme. Dans les deux cas, c'est chacun pour soi. Et nous avons effectivement un conflit entre ces deux pays. Mais faisons bien attention aux raccourcis historiques. Est-ce que nous avons deux blocs qui s'affrontent? Nous n'avons pas deux blocs qui s'affrontent. Et nous avons un pays, bon, la Chine, qui est un pays dominant maintenant économiquement et politiquement, qui commence à avoir son mot à dire un peu partout. Seulement, c'est un pays qui est lié à la croissance mondiale. C'est-à-dire que si nous sommes en crise, si le monde est en crise, la Chine sera elle aussi en crise sociale et économique. Ils n'ont pas un marché, malgré les 1,3 milliard d'habitants, ils n'ont pas un marché intérieur capable d'absorber leur production. Donc ils sont obligés d'avoir une politique de paix aux alentours pour vendre les produits. Ils ont essayé de masquer un peu les errements du début, c'est-à-dire que je rappelle quand même que le gouvernement chinois a interdit à un médecin de lancer l'alerte dès le mois de décembre. Donc il est quand même un peu responsable de ce qui s'est passé et du chaos qui s'est produit ensuite de façon planétaire. Pour marquer tout ça et pour masquer tout ce cas, sans jeu de mots désobligeant, ils ont joué de ce qu'on appelle la diplomatie du masque. C'est-à-dire que ils ont produit des masques en pagaille et les ont envoyés directement dans le monde. ma famille qui habite à La Réunion a reçu des masques directement de Chine sans être passé par la métropole. Et Madagascar, c'est pareil. Et vous avez des zones comme ça qui ont été alimentées en masques. Je rappelle aussi que les Américains ont fait en sorte qu'ils subtilisent un avion cargo rempli de masques pour qui était normalement destiné à la France. Donc on est vraiment un peu ici dans le chacun pour soi. Quant à Trump, les États-Unis ont perdu le leadership. Je rappelle que c'était le leader du monde libre. Et là, vous avez qui à la tête du leader du monde libre ? Un fou, qui maintenant c'est assez clair. Même Fox News aux États-Unis se retourne contre le président qu'elle a pourtant supporté pendant des années. Alors la Chine suscite beaucoup de craintes et c'est légitime. Et le conflit sur l'Himalaya entre l'Inde et la Chine de la semaine dernière n'est pas véritablement rassurant. Ce qui n'est pas rassurant non plus, c'est l'intrusion d'un sous-marin nucléaire chinois dans les eaux japonaises. C'est pas très rassurant tout ça. Tout comme par exemple les intrusions d'avions de chasse russes dans l'espace aérien européen qui obligent par exemple l'armée de l'air française à intervenir en Lituanie et dans les Pays-Bas pour sauvegarder l'espace aérien de ces pays amis. Les régimes autoritaires, que ce soit Pékin, que ce soit Moscou, et parfois aussi les régimes démocratiques. Je parlerai peut-être de l'invasion de la Libye par nos troupes franco-britanniques contre le Kadhafi. Donc, quand on a un problème à l'intérieur, un problème économique, on a assez tendance à divertir la population et l'opinion publique vers quelque chose d'extérieur. Et c'est un fait, par exemple, que le président Erdogan adore manipuler, notamment en Méditerranée orientale, vis-à-vis de Chypre ou contre un navire français au large de la Libye. Une crise diplomatique suivie d'un discours patriotique détourne le regard de l'opinion publique intérieure et aussi de l'opinion publique internationale. Le Covid-19 a permis à la Chine de mater la rébellion hongkongaise. Elle a permis aussi à la Turquie de renforcer ses bases à Tripoli et de susciter désormais un conflit ouvert avec l'Égypte. Il n'y a pas une guerre froide. En fait, il y a une multiplication de guerres froides localisées, plus ou moins froides, plus ou moins chaudes. Je rappelle que le conflit en Syrie n'est toujours pas terminé. Le conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite n'est toujours pas terminé. Le Yémen, malgré les appels de la France et de la Tunisie à une paix globale au Conseil de sécurité pendant la crise du Covid-19, la France a demandé à ce qu'il y ait une cessation générale des hostilités. Même le pape s'y est mis. Eh bien, vous avez des pays qui ont profité de la crise du Covid et du fait que nous soyons tous masqués, pour mettre en place leurs pions et continuer leurs œuvres néfastes. Et nous sommes aussi responsables, nous, les Français, les Britanniques, les grandes puissances de ce monde, les États-Unis sont responsables aussi du chaos qui se déroule au Moyen-Orient, même si maintenant ils se retirent, ils sont quand même responsables de ce qui s'est passé. On n'envahit pas l'Irak il y a 20 ans sans que ça ait une répercussion aujourd'hui. Et quand on lance des drones contre une population qui a déjà été moult fois bombardée, une bombe de plus, une bombe de moins, ça fait pas de mal. Et quand il y a des réfugiés, il faut toujours se dire que ces réfugiés ne sont pas venus ici par plaisir, ils sont venus ici pour se réfugier, et il faudrait peut-être aussi remettre en question les vendeurs d'armes et les pays qui vendent des armes dans des zones de guerre, y compris quand c'est nous la France, se battre un peu la coulpe et puis se dire que c'est peut-être pas comme ça qu'on va remporter les marchés mondiaux. Ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus de leader. L'hyperpuissance américaine, qui, je le rappelle, a servi quand même en ex-Yougoslavie. Si on n'avait pas eu l'armée américaine, les Serbes et les Bosniaques seraient encore en train de se massacrer allègrement avec les Croates. Donc cette hyperpuissance américaine qui a été bien utile à un moment donné, eh bien, elle tente à disparaître. Trump le dit, hein, il l'annonce, il quitte le Moyen-Orient, ils vont quitter l'Afghanistan. Je rappelle quand même que pendant la crise du Covid, bien grâce d'ailleurs à l'intervention de l'Arabie Saoudite, les États-Unis ont signé un accord historique avec les talibans pour pouvoir partir juste avant les élections américaines. Vous imaginez pour Trump, quand il va se présenter à nouveau contre Joe Biden en disant « Regardez, c'est moi qui ai enlevé les boys, nos GIs de l'Afghanistan et du... » il risque de remporter la victoire rien que pour ça. La Russie, l'hyperpuissance américaine est partie, ou en tout cas part et laisse la place en fait à ses propres alliés, que l'Arabie Saoudite gère ce qui se passe au Moyen-Orient, que l'Égypte gère ce qui se passe au Moyen-Orient, que le Maroc gère ce qui se passe au Maghreb, voilà. Et les Russes mettent aussi leur pion avec, par exemple, des amis comme l'Algérie, voilà. Donc on prend les amis là où on peut, et les Chinois font exactement pareil. Vous ne pouvez pas toucher les Birmans, même quand ils sont en train de massacrer les Rohingyas, tout ça parce que la Chine est au-dessus et protège un régime qui est à fond pour elle et qui lui donne un accès à l'océan Indien. L'Europe dans cette histoire, l'Europe est inexistante parce que elle a un caractère confédéral, elle a un caractère seulement purement coopératif en matière de défense et de diplomatie. Elle ne parle pas d'une seule voix. Nous sommes 27 à parler de voix différentes. Vous imaginez la cacophonie. Quand vous retrouvez face à Trump, quand vous retrouvez face à Xi Jinping, quand vous retrouvez même face à Erdogan, il y a 27 voix différentes. Donc 27 intérêts différents. Donc à un moment donné, la France toute seule, je rappelle historiquement, depuis 1801, pour vaincre, la France a toujours eu besoin d'alliés. Ça a été ça en 14-18, ça a été comme ça en 1939-1945. Je regardais les tenues de la première armée qui a libéré, la première armée de Delattre de Tassigny, qui a libéré Toulon, Marseille, la Provence, cette armée d'Afrique. Vous aviez des tabors marocains qui combattaient pour le drapeau français, qui avaient des casques anglais. Vous avez une partie qui avait des casques américains, pendant que les autres avaient encore les casques français de 1940, c'est le matériel était purement américain. Nous sommes partis dans les guerres coloniales en Algérie, en Indochine, avec du matériel américain. Le matériel français ne suffisait pas, quand il n'était pas non plus, lui, saboté par des anticolonialistes qui étaient dans les usines. Donc, n'en déplaise aux souverainistes d'aujourd'hui. Il faut remonter donc à Bonaparte pour voir la dernière Bonaparte, pas Napoléon Ier, Bonaparte pour voir la dernière victoire française. Nous sommes depuis 10 ans dans une véritable course à l'armement mondial. Je voudrais bien dire l'inverse. Je suis un profond pacifiste et j'aime bien qu'on développe plus des stylos, des livres que des armes. Mon rêve, ça serait ça. On peut le regretter, mais c'est un fait. C'est comme ça. Les Chinois se sont lancés dans une course à l'armement en produisant de plus en plus de porte-avions parce qu'ils ont maintenant une Weltpolitik, comme on dit, hein, c'est-à-dire une politique mondiale. Ils ont des bases au Sri Lanka. Ils ont une base à Djibouti. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils regardent les autres puissances. Les Français sont pareils. Les Anglais font pareil. Les Britanniques font pareil. Les Américains sont pareils. Si vous voulez être une grande puissance, il faut avoir des bases mondiales. Donc les Chinois, voulant être une grande puissance respectée, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont aussi des bases mondiales. Et donc ils se réarment. Donc développer un armement à l'heure actuelle, ça coûte une fortune. On n'est plus dans un Spitfire. On n'est plus avec un char de 1945. Vous rentrez dans un char, il y a de la haute technologie. C'est comme si on disait, on part en vacances avec une vieille 4L. Alors, c'est très joli, les vieilles 4L. C'est comme rouler avec une Trabant. Ça peut être un côté romantique. Mais bon, une fois que vous avez fait 1000 kilomètres, sans climatisation, sans rien. Il faut être sérieux. Pour être dominant aujourd'hui, pour être des grandes puissances aujourd'hui, pour être respecté économiquement, politiquement, pour pouvoir aussi être... ne serait-ce que respecté, pas obligatoirement dominé, mais respecté, il faut être à plusieurs. Ça concerne aussi nos forces armées. Je rappelle que pendant que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, nous avons des troupes françaises au Sahel qui sont là pour éliminer des groupes terroristes qui ont détruit les temples musulmans de Tombouctou, qui ont imposé la charia la plus stupide aux populations aux populations. Donc du Sahel, je rappelle les crimes de Boko Haram. Voilà, nous sommes quand même dans des petits conflits comme ça qui portent ombrage aux populations qui sont là. Après, il faut aussi voir les causes de ces conflits. Je veux dire, le fait de ne pas avoir de régime démocratique, c'est quand même un problème. Le fait de les corruptions multiples et variées, c'est quand même aussi un problème. Le fait qu'on ait libéralisé à ce point l'économie, ne permettant pas des pays en voie de développement de mettre des taxes à leurs frontières pour avoir un peu de fonds. Nous, on peut ne pas avoir de taxes. Nous avons des fonds, nous avons des banques riches, nous sommes riches. Mais des petits pays, s'ils n'ont pas de taxes aux frontières, s'ils peuvent même plus maîtriser ce qui se passe d'un point de vue fiscal, qu'est-ce que vous voulez, à moins de devenir bien sûr des paradis fiscaux, mais ça, nos banques sont très au fait de ça, il suffit d'aller les chercher. Donc avoir un, je reviens sur ce que je disais, mais avoir un siège au Conseil de sécurité permanent, ça a un coût et rien n'est gratuit. Et là, nous sommes arrivés à un point où la France seule ne peut pas tout assumer. Ce n'est pas possible. On peut pas tout seul envoyer nos navires dans le golfe d'Aden, envoyer nos navires dans le golfe de Guinée, protéger nos territoires et nos départements d'outre-mer, plus avoir une politique. Nous sommes 67 millions d'habitants. Nous ne sommes plus une grande puissance de 30 millions d'habitants comme nous l'étions en 1789. Nous ne sommes plus la France de Louis XIV. Et en plus de ça, nous venons de découvrir que la France, c'est un peu comme Versailles, c'est-à-dire que c'est très beau, mais il manque l'essentiel, c'est-à-dire les WC et les lavabos. Donc, on a des priorités à l'heure actuelle qui sont des priorités aussi internes et qu'il va falloir donc payer. Donc, faute d'être une grande puissance comme avant, eh bien, la seule solution pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, étant donné que l'Europe politique n'existe pas, eh bien, c'est de rester dans l'OTAN. Tant qu'on a ça, tant qu'on a l'OTAN, on va dire qu'on peut à peu près garantir une paix sur le continent européen. Ce qui peut aussi garantir une paix, mais cette fois mondiale, parce que s'il ne s'agit pas seulement de nous en tant qu'Européens, il s'agit du monde entier, eh bien, c'est de redonner un peu à l'ONU son pouvoir de départ à l'échelle du monde. Mais cela conduit nécessairement à une question à la question de la recomposition du Conseil de sécurité, mais aussi du droit de veto, rediscuter sur ce droit de veto. Est-ce que c'est toujours légitime d'avoir un droit de veto? Et je dis seulement une chose. En 1945, vous aviez 5 puissances. Donc, il y en avait 2 qui étaient, 3 qui étaient de grandes puissances. Les États-Unis étaient la grande puissance économique, l'Union soviétique était la grande puissance qui avait vaincu l'Allemagne après avoir été son allié certes, mais qui l'avait vaincu en définitive. Vous aviez la Grande-Bretagne qui avait, elle, toujours résisté au nazisme. Donc vous aviez ces trois-là. La France n'est arrivée au Conseil de sécurité parce que Winston Churchill, le président, le premier ministre britannique, suivi de son successeur, ont clairement dit qu'il fallait avoir la France à l'époque. Et je rappelle que si nous avons le siège au Conseil de sécurité en 1945, historiquement, c'est parce qu'à l'époque, eh bien, nous avions des colonies. C'est pour ça que nous sommes au Conseil de sécurité. La France avait des colonies. Et sur une map monde de l'époque, le fait d'avoir des colonies, ça garantissait une paix dans cette zone. Seulement aujourd'hui, la France n'a plus de colonies. La Grande-Bretagne n'est plus dominante colonialement sur le reste du monde. Et vous avez des pays qui émergent et qui doivent avoir une responsabilité. Parce que sans avoir cette responsabilité-là, je pense notamment à l'Union indienne, mais on peut penser à l'Australie, on peut penser aussi à l'Allemagne, on peut penser à d'autres pays, en Amérique latine, entre l'Argentine, le Brésil, on peut avoir, par zone, des pays comme ça qui viendraient peut-être au Conseil de sécurité représenter une zone économique ou une zone continentale. Donc on peut avoir ce type de vision ou en tout cas de désir politique. Et n'oublions pas que ce qui a été décidé en 1945, nous sommes en 2020, 75 ans. Il y a 75 ans, le monde était ainsi et aujourd'hui, il est autrement. Il faut prendre conscience de ce autrement-là.
Ce n'est pas utopique, Serge ? La mort de George Floyd montre bien que rien ne change, oui ou non ?
En fait, tout change. Il y a 50 ans, les Noirs des États du Sud des États-Unis ne votaient pas ou étaient contraints à ne pas voter et vivaient en forme d'apartheid. Les manifestants qui suivaient Martin Luther King étaient principalement des Noirs, même si on peut avoir des étudiants ou des prêtres blancs. Aujourd'hui, quand je regarde les informations des États-Unis, je vois des Noirs, des Blancs ensemble, manifester ensemble. Ce n'est pas seulement un problème noir, c'est un problème de police. C'est un problème de militarisation de la police. Quand on regarde les images des États-Unis, on peut être surpris quand même que des Hummers soient des véhicules de police. C'est un peu comme chez nous, quand on voit des CRS avec des LBD, ce sont des armes puissantes. C'est pas un casque avec un bouclier. Alors, je peux comprendre qu'en face, quand on jette des boules de pétanque, c'est pas mieux, mais est-ce que c'est comme ça qu'on veut résoudre les affaires du monde et nos problèmes sociaux? Je rappelle aussi que ce qui se passe aux États-Unis est en plus renforcé par les paroles du président des États-Unis d'Amérique. Ce sont des paroles graves qu'aucun président des États-Unis d'Amérique depuis Lincoln n'aurait admises. Internet nous importe ce débat américain. Est-ce que parce qu'il y a une facilité, je peux effectivement moins me dire, mais enfin c'est dégueulasse que j'ai vu ces trois flics à genoux sur la tête de ce pauvre gars et le mec il étouffe et il se passe rien. C'est pas des comportements de policiers, c'est des comportements de voyous ce qu'on a vu et de gens qui n'ont aucun scrupule. On ne peut pas avoir, je reprends ce que disait la phrase du préfet de police de Paris lors de mai 68, on ne peut pas frapper un homme à terre sans, quand on est un policier, sans que ça rejaillisse à un moment donné sur ce qu'est la police aux yeux de la population. Il y a des choses qui ne se font pas. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous marquer, qui doit être véritablement le sens de la politique de la police chez nous. C'est pas une question de critiquer la police. Est-ce que la police est raciste ? Non. Est-ce que les Français sont racistes ? Non. Est-ce que l'État est raciste ? Non. C'est inscrit dans la Constitution, c'est inscrit dans nos droits. Nous sommes la patrie des droits de l'homme et nous avons aussi une histoire. C'est clair que nous avons une histoire qui a été aussi esclavagiste. Mais attention, il n'y a pas que les Européens qui ont été esclavagistes. Tout le monde a été esclavagiste dans l'histoire de l'humanité. Les Aztèques avec les autres tribus amérindiennes ont été esclavagistes. Les Arabes ont été esclavagistes. Les Noirs africains, les différents empires africains précoloniaux, ils ont été aussi esclavagistes. C'était une façon d'être. C'était une façon d'avoir. Pourquoi Athènes on avait la démocratie? Parce que pendant que les citoyens votaient tous la main levée à l'Ecclésia et faisaient les lois à la boulée, vous aviez des esclaves qui les remplaçaient au travail. Quand on travaille, on peut pas voter tout le temps. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ceux qui voudraient de la démocratie pour tout le temps et de la démocratie immédiate, de la démocratie participative tout le temps. Il faut faire attention à ce qu'on dit dans ce cas-là. Nous enseignons donc le commerce triangulaire, je l'enseignais déjà en collège, je l'enseigne maintenant au lycée, chaque année je reviens dessus, c'est pas quelque chose que l'on cache, seulement il faut faire attention, la France est aussi le pays qui a aboli l'esclavage pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage vis-à-vis de ses propres serfs en 1789, l'esclavage vis-à-vis des Noirs en 1793, et c'est la première abolition de l'esclavage. Le racisme de Jules Ferry, j'entends ça dans les médias, hein. Certains disent « oui, mais Jules Ferry est raciste ». Bon, Jules Ferry, il est l'homme de son temps. On pensait comme ça à l'époque. Et tout le monde pensait comme ça à l'époque. Il faut être un homme un peu plus éclairé comme Clémenceau pour lui renvoyer que ça se fait pas. c'est comme ça que les gens ont pensé. Est-ce que, pour autant, ça fait de Jules Ferry un nazi? Je rappelle que les Français ont toujours respecté leurs troupes coloniales, sauf, bien sûr, en Afrique, mais ça, c'est une autre histoire. Les Français ont longtemps été une terre de refuge, d'expression incroyable pour les Africains et les Afro-Américains. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de racistes en France. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il y a des racistes en France, comme il y a des racistes ailleurs. Voilà. Et nous allons écouter une de ces Afro-Américaines qui est venue se réfugier en France parce que justement on lui a jamais dit en France qu'elle était noire ou on l'a jamais dit qu'elle c'était une nègre, on l'a considérée comme une humaine. Ça a été l'une des grandes égéries de la chanson française à partir des années 30 et du cabaret, et elle a été l'une des grandes résistantes, et elle est restée française jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, en aidant les enfants dans son orphelinat qu'elle avait créé. Je vais parler donc de Josephine Baker.
J'ai deux amours, mon pays est Paris. Toujours mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier ce qui mon sorcelle sait, Paris, Paris tout entier.
C'est pour ça que nous avons été un pays du jazz. C'est pour ça aussi que nous sommes un pays où s'est développé le raï, que l'art et la littérature s'est développé par métissage. Le rock'n'roll n'est rien d'autre qu'une chanson afro-américaine teintée d'amérindiens. Attention à ce moment-là à des translations injustes et injustifiées. La France n'est pas les États-Unis d'Amérique. Les amalgames, les anathèmes actuels sont à la limite de la diffamation et de la falsification historique. C'est bien plus pratique de juger son passé avec ses yeux de maintenant que de se juger soi-même et ses actes d'aujourd'hui. Quand manifestons-nous contre les esclaves modernes et exploités, comme par exemple les sans-papiers, les mineurs de la République démocratique du Congo, qui permettent justement aux grandes entreprises de faire nos téléphones portables, les esclaves vendus à Tripoli? Quand est-ce qu'on manifeste devant? Que faisons-nous contre les entreprises qui exploitent des salariés à l'autre bout du monde? Nos droits socio-économiques à nous, Français, Européens, pays riches, ne doivent-ils pas être les mêmes pour les autres pays et les autres peuples de cette planète? Boycotterons-nous la Coupe du Monde au Qatar sous prétexte que des travailleurs pakistanais, indiens y ont été exploités pour fabriquer en pleine chaleur les superstades dans lesquels vont jouer nos superbes footballeurs multimillionnaires? Je ne pense pas qu'on ira jusque-là. Quant au racisme, eh bien le racisme est une haine partagée. L'histoire et l'actualité nous montrent son caractère gravement universel. Le génocide arménien, le génocide amérindien, les juifs, les tziganes, mais aussi les nationalismes ethniques qui ont donné des concepts comme l'ivoirité, l'albanité, les birmans contre les rohingyas, au Cachemire, les chinois contre les tibétains, la liste est longue. La liste est longue de ces racismes. Mais si nous ne pensons qu'à ça, si nous ne voyons pas les autres humains comme nos frères et nos sœurs, à ce moment-là, effectivement, le monde d'après ne changera pas par rapport au monde d'avant. Le monde semble effectivement se fracturer en zones de civilisation, comme le soulignait malheureusement Samuel Huntington à la fin des années 70. Même l'Europe se fracture. L'Est se détache des valeurs de l'Ouest. Orban ou le PiS en Pologne rejettent les sociétés multiculturelles que nous sommes, nous, à l'Ouest, français, britannique, allemand désormais et espagnol. Cela plaît à des Salvini ou à des Le Pen ou à l'AFD allemande. Cela plaît effectivement à la fracture, parce que cette fracture-là ne répond pas à la fracture qui est véritablement la plus inquiétante, c'est la fracture sociale. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'1% de la population possède plus que les autres 99%? Que faisons-nous? Est-ce que nous avons rétabli l'impôt sur les grandes fortunes du fait de la crise? Je n'entends pas parler de ça pour l'instant. Pour l'instant, je n'entends parler que il va falloir faire des efforts, travailler plus pour rattraper le retard. 2 mois de retard, on va aller travailler en travaillant 40 heures par semaine? Ah bon? Donc on ne remet pas en question tous ceux qui partent à l'étranger planquer leur argent dans grâce à nos banques dans d'autres paradis. On ne pose pas non plus la question de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Nous devons absolument créer une société plus fraternelle, une société basée sur les droits de l'homme et de l'humain, sont la seule garantie contre l'injustice, les injustices. Ce sont les injustices qui suscitent les haines. C'est pour cela que les hommes et les femmes qui avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale ont écrit une déclaration universelle des droits de l'homme pour les Nations Unies. Nous devons avoir d'autres Madame Roosevelt, d'autres René Cassin, et demander l'application du droit et aussi réglementer l'économie mondiale avec des aspects écologiques et humains forts. Il faut retrouver collectivement les chemins de l'espérance tout en étant plus responsable chacun d'entre nous économiquement et écologiquement et sanitairement. Faisons bien attention à ne pas tomber non plus dans des peurs millénaristes de fin du monde. On va tous mourir. J'écoutais Yves Cochet, un ancien ministre écologiste, dire que bon, en fait, ce serait pas mal qu'on serait 4 milliards d'individus, comme ça la Terre pourrait respirer. Ouais, je sais pas comment on va faire pour passer de 8 milliards à 4 milliards. Je trouve ça misérable. Nous pouvons nourrir 9 milliards de personnes sur Terre. Il faudrait juste peut-être ne pas tout enveloppé dans des sachets plastiques comme je vois ça dans un nouveau magasin manosquin. Il faudrait peut-être aussi peut-être moins produire ou mieux produire et puis faire bien attention à ce qui se passe autour de nous. La crise du Covid-19 est la fin probable d'un monde, tout comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale a été la fin d'un monde, ou que la Grande Peste a été la fin d'un monde. Faisons en sorte que celui qui vient soit meilleur que celui que nous quittons. Le progrès n'est envisageable que si l'humanité y a droit et en profite. Considérons nos voisins, tous les êtres humains, comme nos frères et sœurs, et nous vaincrons tous les crises ensemble. Merci James Fontaine à la technique. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne reprise, de bonnes vacances, la reprise d'un travail ou de retrouver aussi le travail pour certains. Je profite de la radio pour dire à mes élèves de terminale, de seconde et de première du lycée Scangon même un grand merci. Et pour ceux qui ont le bac et qui vont l'avoir le 7 juillet officiellement, eh bien je leur souhaite de très belles études supérieures. Et à très bientôt. Nous nous retrouverons à partir de septembre pour reprendre ces émissions de géopolitique et d'histoire, géographie, et cette émission géopolitique et histoire des humains. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt. Salut et fraternité.
Un grand merci à toi Serge, et je rappelle qu'on peut retrouver évidemment ton émission sur le site de fréquencemistral.com, notre site de la radio. Et puis aussi je profite de ces retrouvailles pour te dire merci infiniment pour tous ces bons moments passés qui vont continuer. Je rappelle qu'il y a eu 24 cours radiophoniques que vous pouvez retrouver sur le site de fréquencemistral.com sur des thèmes différents, et que j'ai eu la joie d'assister techniquement pour la musique, pour le son, et puis aussi simplement pour essayer de créer ensemble le lien, la fraternité. N'oublions pas, on garde le lien, on lâche rien. Et puis je rebondis sur une petite phrase. Je trouve que cette phrase est belle. Faisons en sorte que le prochain ne soit pas pire que le dernier. Je pense qu'en matière d'élection, ça peut fonctionner aussi. À bon entendeur, salut et belle journée à vous. On se quitte avec la musique des Monty Python. Always look on the bridge side of life. Sing along.
Always look on the bright side of life. Sing. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. If you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, and the thing, hey, always look on the bright side. side of life. Very good. Always look on the light side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So, always look on the bright side of death. And just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit.